écouter chez frères et sœurs, vous qui êtes des puristes en matière de liturgie, que nous sommes permis aujourd'hui d'entorse à la liturgie. Puisque nous avons chanté par anticipation sur la fête de Noël, le chant des anges avec les gloires à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Parce qu'à événement exceptionnel, disposition exceptionnelle, et j'assume pleinement cette petite entorse liturgique. Disons que les anges, dans le vol qui est conduit vers Bethléem, où ils vont faire retentir ce chant, ont fait escale à Sibourg. Et ont été tellement émerveillés par la beauté de cet orgue, où ils ont vu cette échelle de Jacob qui relie la terre au ciel et qui préfigurait dans l'Ancien Testament le mystère même de l'incarnation pour lequel il se presse vers le champ des bergers. Donc Jésus dira à Nathanaël au début de l'évangile de Saint Jean, qu'est-ce que ce sera lorsque vous verrez le Fils de l'homme dans sa gloire et les anges montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. Cette échelle de Jacob, qui est bien signifiée par la beauté de cet orgue, n'est-ce pas, qui s'élève vers le ciel, qui touche quasiment cette voûte étoilée de notre belle église de Sibourg, où ils se sont retrouvés. Et nous dirons qu'ils ont fait ici leur répétition générale, avant que nous puissions, avec toute l'église universelle, dans la nuit de Noël, rechanter ce beau cantique nouveau. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, expression par excellence de ce cantique nouveau dont parle le psalmiste. Que nous pouvons chanter pleinement avec Jésus dans le mystère de son incarnation et qui est Jésus lui-même dans toute la vie. L'incarnation, la rédemption, le mystère que nous déroulons à travers l'année liturgique est comme ce cantique nouveau pour le Seigneur, qui consiste en effet à rendre gloire à Dieu et à accueillir cette sanctification que le Christ nous acquiert à travers son mystère d'incarnation et de rédemption, qui réside dans ces mots de l'ange, la paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation entre les hommes, c'est cela, n'est-ce pas, que nous attendons, alors que nous allons dans quelques jours, un jour maintenant, célébrer l'avènement du Christ dans la chair, cette grande joie, cette bonne nouvelle pour tout le peuple, que les anges nous aident à chanter. Et l'orgue, c'est le roi des anges. C'est magnifique d'avoir pu relever ce grand défi dont vous pouvez être fier, d'un orgue aussi monumental pour rehausser la beauté, la solennité, l'éclat de la liturgie. C'est bien le sens profond de la musique sacrée, du chant sacré, que de chanter la gloire de Dieu. Et que de nous aider à nous tourner vers le ciel pour nous unir à la liturgie céleste, précisément à la liturgie des anges. Mais il y a bien deux écueils qu'il nous faut éviter, qui étaient signalés naguère dans un beau livre par celui qui n'était encore que le cardinal Joseph Ratzinger. Un livre intitulé Un chant nouveau pour le Seigneur, qui est comme un petit traité de spiritualité et de théologie de la liturgie. Il nous dit dans la musique sacrée, comme dans le chant sacré, il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est l'esthétisme comme une fin en soi. Ce serait le cas si la musique était l'occasion de nous glorifier nous-mêmes. Ce serait le cas si la musique était l'occasion pour l'organiste, le compositeur, le producteur, Sauveur, de se glorifier lui-même. Je sais bien que l'orgue est appelé par la tradition le roi des instruments, exprimant sa suprématie dans l'éclat de ses jeux. Mais le titre que lui donne souvent la tradition latine est plutôt, en latin, Ancilla Domini, servante du Seigneur. Cette expression que la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, dont nous faisons mémoire précisément en ce 4e dimanche de l'Avent qui précède immédiatement la fête de la Nativité du Seigneur, c'est précisément le titre que la Vierge Marie se donnera elle-même en prononçant son fiat à l'annonce de l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La musique sacrée n'est pas une fin en soi, mais elle est au service de la liturgie. Elle est au service du Seigneur. Elle commence par être accueil de la révélation que Dieu fait de ses merveilles dans la création et dans cette recréation qu'est notre rédemption. Vous savez où est né le chant sacré ? Nous avons un signe de cette naissance du chant sacré dans la Bible et en particulier dans le livre de l'Exode. Le premier cantique qui s'est élevé vers le ciel en action de grâce pour ce que Dieu fait dans la vie des hommes, c'est le cantique de Moïse, alors que le peuple d'Israël venait de traverser la mer Rouge à pied sec, ce cantique dans lequel le peuple hébreu chante son action de grâce pour avoir été libéré de l'esclavage d'Égypte, qui est la figure pour nous de la libération de l'esclavage du péché, le Christ Jésus, dans son avènement, dans sa mort, dans sa résurrection, nous a acquise une fois pour toutes. Le chant liturgique, la musique liturgique, est accueil de cette parole de Dieu. Elle est toujours liée à la parole de Dieu de tes servantes. Cette parole qui ne peut pas tout dire du mystère de l'amour de Dieu pour nous, alors qu'il nous dit science. Car il y a quelque chose d'indicible dans ce que Dieu fait dans notre vie. Et ce silence est comblé par la musique qui naît de la parole et du silence pour dire, exprimer ce qui est précisément indicible et nous faire entrer dans cette jubilation des anges pour ces merveilles que Dieu accomplit dans notre vie. C'est vrai que la liturgie doit être soignée, et vous avez ici un peu de liturgie, je le sais, et je comprends pourquoi il était heureux de relever avec vous ce grand défi d'un bel ordre. Et comme nous dit le pape François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, le soin de la liturgie ne doit pas nous dispenser de ce à quoi elle est destinée. La gloire de Dieu et une vie profondément chrétienne. La liturgie n'est pas une fin en soi. Elle est la source de notre glorification de Dieu, d'où la solennité, d'où l'éclat. Mais elle est la source d'une vie authentiquement chrétienne à laquelle nous sommes sans cesse renvoyés à nos responsabilités dans le monde, à nos tâches présentes en matière d'engagement social, caritatif, missionnaire. Le deuxième écueil, pour autant, c'est celui que le Père de Ratzinger appelait le pragmatisme pastoral comme une fin en soi, où il s'agirait d'adapter tellement la liturgie à la culture qui est la nôtre, culture de masse, dans une société sécularisée, que l'on finirait par aplatir le mystère et banaliser la liturgie comme cantique nouveau qui glorifie Dieu et sanctifie les hommes. C'est pourquoi vous avez raison d'être fier de ce défi que vous avez relevé avec cet ordre magnifique qui accompagnera si bien non seulement la voix des anges, mais nos voix parfois fatiguées dans l'action de grâce ou dans la peine. Vous voyez comme c'est beau ce dialogue qui a introduit immédiatement cette célébration après la bénédiction de l'orgue. L'orgue répond au commandement de l'Église de glorifier Dieu et de nous rejoindre dans nos peines, dans nos actions de grâce, dans nos supplications, dans notre prière, qui exprime de bravure tout ce qui fait notre vie dans ces joies et dans ces épreuves, dans ces tristesses et dans ces angoisses, dans ces élévations et dans ces pesanteurs. Aujourd'hui, tout de même que je dise quelque chose de cet évangile, l'annonciation à Joseph, car sa nature, que nous lisons pendant cette année 1 du cycle liturgique, nous rapporte ce qui précède le mystère de la nativité par la tradition de Joseph, et non pas par Saint-Luc, par la tradition de Marie. Aujourd'hui, si c'était la naissance, nous aurions lu l'évangile de l'annonciation à Marie chez Saint-Luc. Mais c'est l'annonciation à Joseph pour nous dire la même chose du mystère prodigieux, inouï de l'incarnation. Joseph qui est perplexe devant la grossesse mystérieuse de la Vierge Marie qui lui a été accordée en mariage lorsqu'il la découvre revenant à Nazareth, où elle était visitée sa vieille cousine Élisabeth, séjournant auprès d'elle environ 3 mois. Perplexité de Joseph devant cette grossesse de celle qu'il sait être la Vierge Marie, alors qu'ils n'ont pas encore mené vie commune. Perplexité qui n'est pas un doute sur l'intégrité de la Vierge Marie, lui le juste Joseph est mieux placé que quiconque pour affirmer que Marie est intègre dans sa virginité. La preuve, c'est qu'il voulut le juste Joseph, celui qui accomplit parfaitement les commandements de Dieu, l'a répudié secrètement sans bruit. S'il avait été convaincu de l'adultère de Marie, il aurait dû, comme la loi le lui imposait, répudier Marie publiquement. C'est que Joseph ne comprend pas ce mystère de cette maternité. Se sent en même temps indigne devant ce mystère qui présente, enveloppant son époux, son épouse, vierge et belle. Dans sa perplexité, l'ange du Seigneur, celui qui chante devant Dieu sa gloire et la paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté, vient nous délivrer de sa perplexité. Alors qu'il se retourne sous sa couche, ne crains pas, Joseph, fils de David, de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est advenu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle concevra et mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, ou Jésus, qui signifie le Sauveur. Sauve, le Seigneur sauve, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous aussi, chers frères et sœurs, ce 4e dimanche, entendons à travers l'orgue qui chante la gloire de Dieu et qui transmet le message de Dieu aux hommes, le message de l'incarnation. Entendons l'ange du Seigneur nous dire ne craignez pas de prendre chez vous Marie, l'épouse de Joseph le juste, car ce qui va advenir en elle et en vous dans cette nuit Noël vient de l'Esprit Saint. Accueillons Marie pour que Jésus puisse concevoir dans notre vie, enfanter dans le monde d'aujourd'hui par notre témoignage, celui qui est Dieu avec nous, Jésus, le Seigneur sauve, car il vient pour tous, et nous en sommes les témoins.